35:3. Je n'essaierai pas de le nier, ma sœur. Mais qu'importe si c'est pour nous la seule manière de croire et d'espérer. Heureux ceux qui peuvent se soumettre à la lettre sans le secours de l'esprit. Heureuses les rêveries sensibles et folles qui ramènent l'esprit rebelle à la soumission devant la lettre. Quant à moi, je trouvais dans les rites et dans les emblèmes de ce culte une sublime poésie et une source éternelle d'attendrissement. La forme et la disposition des temples catholiques, la décoration un peu théâtrale des autels, la magnificence des prêtres, les chants, les parfums, les intervalles de recueillement et de silence, ces antiques splendeurs qui sont un reflet des mœurs païennes au milieu desquelles l'Église prit naissance, m'ont frappé de respect toutes les fois qu'elles m'ont surprise dans une disposition impartiale. L'abbaye était nue et dévastée, mais en errant un jour parmi les décombres, j'avais découvert l'entrée d'un caveau qui, grâce aux éboulements dont elle était masquée, avait échappé aux outrages d'un temps de délire et de destruction. En m'ouvrant un passage parmi les gravats et les ronces dont elle était obstruée, j'avais pu pénétrer jusqu'au bas d'un escalier étroit et sombre qui conduisait à une petite chapelle souterraine d'un travail exquis et d'une intacte conservation. La voûte en était si solide qu'elle résistait au poids d'un amas énorme de débris. L'humidité avait respecté les peintures, et sur un prie-dieu de chêne sculpté, on distinguait dans l'ombre je ne sais quel sombre vêtement de prêtre qui semblait avoir été oublié la veille. Je m'en approchai et me penchai vers lui pour le regarder. Alors je distinguai, sous les plis du lin et de l'étamine, la forme et l'attitude d'un homme agenouillé. Sa tête, inclinée sur ses mains jointes, était caché par un capuchon noir. Il semblait plongé dans un recueillement si profond, si imposant, que je reculai frappé de superstition et de terreur. Je n'osais plus faire un mouvement, car l'air extérieur auquel j'avais ouvert un passage agitait le vêtement poudreux et l'homme semblait se mouvoir. On aurait dit qu'il allait se lever. Était-il possible qu'un homme eût survécu au massacre de ses frères, qu'il eût pu exister 30 ans, confiné par la douleur et l'austérité, dans ces souterrains dont j'ignorais la profondeur et les issues? Un instant, je le crus, et, craignant d'interrompre sa méditation, je restai immobile, enchaîné par le respect, cherchant ce que j'allais lui dire, prête à me retirer sans oser lui parler. Mais à mesure que mes yeux s'accoutumèrent à l'obscurité, je distinguais les plis flasques de l'étoffe tombant à plat sur des membres grêles et anguleux. Je compris le mystère dont j'étais témoin et je portai une main respectueuse sur cette relique de saint. À peine eus-je effleuré le capuchon qu'il tomba en poussière. Et ma main rencontra le crâne froid et desséché d'un squelette humain. Ce fut une chose effrayante et sublime à voir pour la première fois que cette tête de moine, où le vent n'agitait encore quelques touffes de cheveux gris et dont la barbe s'enlaçait aux phalanges décharnées des mains croisées sous le menton. Certains caveaux, imprégnés d'une grande quantité de salpêtre, ont la propriété de dessécher les corps et de les conserver entiers durant des siècles. On a découvert beaucoup de cadavres préservés de la corruption par ces influences naturelles. La peau jaune et transparente comme un parchemin se colle et s'attache sur les muscles retirés et durcis. Les membranes des lèvres se plissent autour des dents solides et brillantes. Les cils demeurent implantés autour des yeux sans émail et sans couleur. Les traits du visage conservent une sorte de physionomie austère et calme. Le front, lisse et tendu, possède une certaine majesté lugubre et les membres gardent les inflexibles attitudes où la mort les surprit. ces tristes débris de l'homme retiennent un caractère de grandeur qu'on ne saurait nier, et il ne semble pas, en les regardant avec attention, que le réveil soit impossible. La dépouille que j'avais sous les yeux avait quelque chose de plus sublime encore à cause de sa situation. Ce religieux, mort sans convulsion et sans agonie dans le calme de la prière, me semblait revêtu d'une auréole de gloire. Que s'était-il donc passé autour de lui durant ces derniers instants ? Condamné à une inflexible pénitence pour quelque noble faute, s'était-il endormi dans le Seigneur, confiant et résigné au fond de l'impace, tandis que ses frères, impitoyables, chantaient l'hymne des morts sur sa tête. Cette supposition s'évanouit quand je me fus assuré qu'aucune partie du souterrain n'était murée et qu'il n'y avait dans ce lieu consacré au culte aucune apparence de cachot. C'était donc l'orage révolutionnaire qui avait surpris ce martyr dans sa retraite. Il était descendu là, peut-être, en entendant les cris féroces du peuple, pour échapper à ses profanations ou pour recevoir le dernier coup sur les marches de l'autel. Mais la trace d'aucune blessure n'attestait qu'il en eût été ainsi. Je m'arrêtai à croire que l'écroulement des parties supérieures de l'édifice, sous la main furieuse des vainqueurs, lui avait subitement coupé la retraite et qu'il lui avait fallu se résigner à subir le supplice des vestales. Il était mort sans torture, avec joie peut-être, au milieu de ces affreux jours où la mort était un bienfait même aux incrédules. Il avait rendu son âme à Dieu, prosterné devant le Christ et priant pour ses bourreaux. Cette relique, ce caveau, ce crucifix me devinrent sacrés. Ce fut sous cette voûte sombre et froide que j'allais souvent éteindre l'ardeur de mes pensées. J'enveloppai d'un nouveau vêtement la dépouille sacrée du prêtre. Je m'agenouillai chaque jour auprès d'elle. Souvent, je lui parlais à haute voix dans les agitations de ma souffrance, comme à un compagnon d'exil et de douleur. Je me pris d'une sainte et folle affection pour ce cadavre. Je me confessais à lui. Je lui racontai les angoisses de mon âme. Je lui demandai de se placer entre le ciel et moi pour nous réconcilier. Et souvent, dans mes rêves, je le vis passer devant mon grabat comme l'esprit des visions de Job, et je l'entendis murmurer d'une voix faible comme la brise des paroles de terreur ou d'espoir. J'aimais aussi dans cette chapelle souterraine un grand Christ de marbre blanc qui, placé au fond d'une niche, avait dû être autrefois inondé de lumière par une ouverture supérieure. Désormais, ce soupirail était obstrué, mais quelques faibles rayons se glissaient encore dans les interstices des pierres en désordre accumulées à l'extérieur. Ce jour terne et rampant versait une singulière tristesse sur le beau front pâle du Christ. Je me plaisais dans la contemplation de ce poétique et douloureux symbole. Quoi de plus touchant sur la terre que l'image d'une torture physique couronnée par l'expression d'une joie céleste ? Quelle plus grande pensée, quel plus profond emblème que ce Dieu martyr, baigné de sang et de larmes, étendant ses bras vers le ciel ? Ô image de la souffrance, élevée sur une croix et montant comme une prière, comme un encens de la terre aux cieux ! Offrande expiatoire de la douleur qui se dresse toute sanglante et toute nue vers le trône du Seigneur. Espoir radieux, croix symbolique où s'étendent et reposent les membres brisés par le supplice. Bandeau d'épines qui saignait le crâne, sanctuaire de l'intelligence, diadème fatal imposé à la puissance de l'homme. Je vous ai souvent invoqué. Je me suis souvent prosterné devant vous. Mon âme s'est offerte souvent sur cette croix. Elle a saigné sous ses épines. Elle a souvent adoré, sous le nom de Christ, la souffrance humaine relevée par l'espoir divin. la résignation, c'est-à-dire l'acceptation de la vie humaine, la rédemption, c'est-à-dire le calme dans l'agonie et l'espérance dans la mort. Le second hiver fut moins paisible que le premier. La patiente résignation avec laquelle j'avais d'abord travaillé à rendre mon existence possible au milieu de l'isolement et des privations m'abandonna l'année suivante. L'indolence et les rêveries de l'été avaient changé la situation de mon esprit. Je me sentais plus forte, mais aussi plus irritable, plus accessible à la souffrance, moins calme à la subir, et pourtant plus paresseuse à l'éviter. Toutes les rigueurs que je m'étais imposées avec joie me devenaient amères. Je n'y trouvais plus cette volupté orgueilleuse qui m'avait soutenue d'abord. La brièveté des jours m'interdisait le triste plaisir des rêveries sur la terrasse, et du fond de ma cellule où s'écoulaient les longues heures du soir, j'entendais pleurer la bise lugubre. Souvent, lasse des efforts que je faisais pour m'isoler des objets extérieurs, incapable d'attention dans l'étude ou de règles dans la réflexion, je me laissais dominer par la tristesse de mes impressions extérieures. Assise dans l'embrasure de ma fenêtre, je voyais la lune s'élever lentement au-dessus des toits couverts de neige et reluire sur les aiguilles de glace qui pendaient aux sculptures dentelées des cloîtres. Ces nuits froides et brillantes avaient un caractère de désolation dont rien ne saurait donner l'idée. Quand le vent se taisait, un silence de mort planait sur l'abbaye. La neige se détachait sans bruit des rameaux des vieux ifs et tombait en flocons silencieux sur les branches inférieures. On eût pu secouer toutes les ronces desséchées qui garnissaient les cours sans y éveiller un seul être animé, sans entendre siffler une couleuvre ou ramper un insecte. Dans ce morne isolement, mon caractère se dénatura. La résignation dégénéra en apathie. L'activité des pensées devint le dérèglement. Les idées les plus abstraites, les plus confuses, les plus effrayantes assiégèrent tour à tour mon cerveau. En vain, j'essayais de me replier sur moi-même et de vivre dans le présent. Je ne sais quel vague fantôme d'avenir flottait dans tous mes rêves et tourmentait ma raison. Je me disais que l'avenir devait avoir pour moi une forme connue, que je ne devais l'accepter qu'après l'avoir fait moi-même, qu'il fallait le calquer sur le présent que je m'étais créé. Mais bientôt, je m'apercevais que le présent n'existait pas pour moi, que mon âme faisait de vains efforts pour se renfermer dans cette prison, mais qu'elle errait toujours au-delà, qu'il lui fallait l'univers et qu'elle l'épuiserait le même jour où l'univers lui serait donné. Je sentais enfin que l'occupation de ma vie était de me tourner sans cesse vers les joies perdues ou vers les joies encore possibles. Celle que j'avais cherchée dans la solitude me fuyait. Au fond du vase, là comme partout, j'avais trouvé la lie amère. Ce fut vers la fin d'un été brûlant que mon vœu expira. J'en vis approcher le terme avec un mélange de désir et d'effroi qui altéra sensiblement ma santé et ma raison. J'éprouvais un incroyable besoin de mouvement. J'appelais la vie avec ardeur, sans songer que je vivais déjà trop et que je souffrais de l'excès de la vie. Mais après tout, me disais-je, que trouverais-je dans la vie dont je n'ai déjà sondé le néant ? Quel plaisir dont je n'ai découvert le vide ? Quelle croyance qui ne se soit évanouie devant mon examen sévère ? Irais-je demander aux hommes le calme que je n'ai pu trouver dans la solitude ? Me donneront-ils ce que Dieu m'a refusé ? Si j'épuise encore une fois mon cœur à la poursuite d'un vain rêve, si j'abandonne la retraite à laquelle je me suis condamné pour aller me désabuser encore, où trouverai-je ensuite un asile contre le désespoir ? quelle espérance religieuse ou philosophique pourra me sourire ou m'accueillir encore quand j'aurai pénétré le fond de toutes mes illusions, quand j'aurai acquis la preuve complète, irrécusable de mon néant? Et pourtant, me disais-je encore, à quoi sert la retraite? À quoi sert la réflexion? Ai-je moins souffert parmi ces tombeaux en ruine qu'au sein des pompes humaines? Qu'est-ce qu'une philosophie stoïque qui ne sert qu'à créer à l'homme des souffrances nouvelles? Qu'est-ce qu'une religion expiatoire et gémissante dont le but est de chercher la douleur au lieu de l'éviter? Tout cela n'est-il pas le comble de l'orgueil et de la folie? Sans tous ces raffinements de la pensée, les hommes, livrés au seul plaisir des sens, ne seraient-ils pas plus heureux et plus grands? Cette prétendue élévation de l'esprit humain, peut-être que Dieu la réprouve, et au jour de la justice, peut-être qu'il la couvrira de son mépris. Au milieu de ces irrésolutions, je cherchais dans les livres une direction à ma volonté flottante. Les naïves poésies des âges primitifs, les cantiques voluptueux de Salomon, les pastorales lascives de Longus, la philosophie érotique d'Anacréon me semblaient parfois plus religieuses dans leur sublime nudité que les soupirs mystiques et les fanatiques hystéries de sainte Thérèse. Mais le plus souvent, je me laissais entraîner par une sympathie plus immédiate vers les livres ascétiques. C'est en vain que je voulais me détacher des impressions toutes spirituelles du christianisme. J'y revenais toujours. Je n'avais dans l'esprit qu'une jeunesse passagère pour tressaillir aux cantiques de l'épouse, pour sourire aux embrassements de Daphnis et Chloé. Un instant suffisait pour user cette chaleur factice qu'une véritable simplicité de cœur n'entretenait pas, que les feux d'un soleil d'Orient ne venaient pas renouveler. J'aimais à lire la vie des saints, ces beaux poèmes, ces dangereux romans, où l'humanité paraît si grande et si forte qu'on ne peut plus ensuite se baisser et regarder à terre les hommes tels qu'ils sont. J'aimais ces retraites éternelles, profondes, ces douleurs pieuses couvées dans le mystère de la cellule, ces grands renoncements, ces terribles expiations, toutes ces actions folles et magnifiques qui consolent les maux vulgaires de la vie par un noble sentiment d'orgueil flatté. J'aimais aussi à lire ces consolations douces et tendres que les solitaires recevaient dans le secret de leur âme, ces entretiens intimes du fidèle et de l'Esprit Saint dans la nuit des temples, ces correspondances naïves de François de Sales et de Marie de Chantal, mais surtout ces épanchements pleins d'amour austère et de métaphysique rêveuse entre Dieu et l'homme, entre Jésus dans l'Eucharistie et l'auteur inconnu de l'Imitation. Ces livres étaient pleins de méditation, d'attendrissement et de poésie. Ils embellissaient la solitude. Ils promettaient la grandeur dans l'isolement, la paix dans le travail, le repos de l'esprit dans la fatigue du corps. J'y trouvais le reflet d'un tel bonheur, l'empreinte d'une sagesse si délicieuse, que je recouvrais en les lisant l'espoir d'arriver au même but. Je me disais que, comme moi, ces hommes saints avaient été éprouvés par de violentes tentations de retourner au monde, mais qu'ils les avaient surmontées courageusement. Je me disais aussi que, renoncer à mon œuvre, après 2 ans de combats et de triomphes, c'était perdre le fruit de si rudes efforts et agir avec plus de folie encore que de lâcheté. Au lieu qu'en me rattachant à ma résolution, en renouvelant mon vœu pour un temps plus ou moins étendu, je recueillerai peut-être bientôt les fruits de ma persévérance. J'allais retourner à la société, peut-être pour m'y briser sans retour, au lieu qu'en attendant quelques jours de plus au fond de mon cloître, j'allais entrer sans doute dans la béatitude des élus. Après ces longs combats où s'épuisait ma raison, Je tombais dans le découragement, et je me demandais, en riant de moi-même avec mépris, si la vie était une chose assez importante pour la défendre ainsi, et pour en promener les débris au milieu de tant d'orages. Ces irrésolutions me conduisirent jusqu'aux approches du printemps. À l'époque où mon vœu expira, pour couper court à mes angoisses, je pris un terme moyen. Je me réfugiai dans l'inertie qui se traîne toujours à la suite des grandes émotions. Je laissai passer les jours sans fixer mon avenir, attendant que le réveil de mes facultés me poussât dans la vie ou m'enchaînât dans l'oubli. En effet, je ne tardais pas à sentir les nouveaux aiguillons de cette inquiétude dangereuse qui m'avait déjà fait subir tant de maux. Je m'aperçus un jour que ma liberté m'était rendue, qu'aucun serment ne me consacrait plus à Dieu, que j'appartenais à l'humanité et qu'il était temps peut-être de retourner à elle si je ne voulais perdre entièrement l'usage de mon cœur et de mon intelligence. Les jours d'affaissement qui trouvaient si souvent place dans ma vie me laissaient un long effroi et je me débattais alternativement contre l'appréhension de l'idiotisme et celle de la folie. Un soir, je me sentis profondément ébranlé dans ma foi religieuse et, du doute, je passai à l'athéisme. Je vécus plusieurs heures sous le charme d'un sentiment d'orgueil inconcevable et puis je retombai de cette hauteur dans des abîmes de terreur et de désolation. Je sentis que le vice et le crime étaient tout près d'entrer dans ma vie si je perdais l'espoir céleste qui seul m'avait fait jusqu'alors supporter les hommes. Le tonnerre vint à gronder sur ma tête. C'était le premier orage du printemps. Un de ces orages prématurés qui bouleversent parfois inopinément les jours encore froids du mois d'avril. Je n'ai jamais entendu rouler la foudre et vu le feu du ciel sillonner les nuées sans qu'un sentiment d'admiration et d'enthousiasme ne m'ait ramené à l'instinct de la foi. Involontairement, je tressaillis et par habitude, je m'écriai saisi d'une sainte terreur « Vous êtes grand, ô mon Dieu, la foudre est sous vos pieds et de votre front n'émane la lumière. » L'orage augmentait. Je rentrai dans ma cellule, seul endroit vraiment abrité de l'abbaye. La nuit vint de bonne heure. La pluie tombait par torrents. Le vent mugissait sans interruption dans les longs corridors et les pâles éclairs s'éteignaient sous les nuées qui crevaient de toutes parts. Alors je trouvai dans mon isolement, dans la sécurité de mon abri, dans le calme austère mais réel qui m'entourait au milieu du désordre des éléments, un sentiment d'indicible bien-être et de reconnaissance passionnée envers le ciel. L'ouragan enlevait aux ruines des tourbillons de poussière et de craie qu'il semait sur les arbrisseaux incultes et sur les décombres. Il arrachait aux murs leurs rameaux de plantes grimpantes. À l'hirondelle, le frêle abri de son nid à demi construit sous les voussures poudreuses. Il n'y avait pas une pauvre fleur, pas une feuille nouvelle qui ne fût flétrie et emportée. Les chardons n'emplissaient l'air de leur duvet dispersé. Les oiseaux pliaient leurs ailes humides et se réfugiaient dans les broussailles. Tout semblait contristé, fatigué, brisé. Moi seul, j'étais paisiblement assise au milieu de mes livres, occupée de temps en temps à suivre d'un œil nonchalant la lutte terrible des grands ifs contre la tempête et les ravages de la grêle sur les jeunes bourgeons des sureaux sauvages. « Ceci, m'écriai-je, est l'image de ma destinée, le calme au fond de ma cellule, l'orage et la destruction au dehors. Mon Dieu, si je ne m'attache à vous, le vent de la fatalité m'emportera comme ses feuilles, il me brisera comme ses jeunes arbres. Oh, reprenez-moi, mon Dieu, reprenez mon amour, ma soumission et mes serments. ne permettez plus que mon âme s'égare et flotte ainsi entre l'espoir et la méfiance. Ramenez-moi à de grandes et solides pensées par une rupture éternelle, absolue, entre moi et les choses, par une alliance indissoluble avec la solitude. » Je m'agenouillai devant le Christ et, dans un mouvement d'espoir et d'entraînement, j'écrivis sur la muraille blanche un serment que je lus à haute voix dans le silence de la nuit. Ici, un être encore plein de jeunesse et de vie se consacre à la prière et à la méditation par un serment solennel et terrible. Il jure par le ciel, par la mort et par la conscience de ne jamais quitter l'abbaye de et d'y vivre tout le reste des jours qui lui seront comptés sur la terre. Après cette résolution violente et singulière, je sentis un grand calme et je m'endormis malgré l'orage qui augmentait d'heure en heure. Vers le jour, je fus éveillé par un fracas épouvantable. Je me levai et courus à ma fenêtre. Une des galeries supérieures qui élevait encore la veille ses frêles piliers et ses élégantes sculptures autour du préau venait de céder à la force de l'ouragan et de s'écrouler. Un nouveau coup de vent fit craquer d'autres parties de l'édifice qui s'écroulèrent aussi en moins d'un quart d'heure. La destruction semblait s'étendre sous l'influence d'une volonté surnaturelle. Elle approchait de moi. Le toit qui m'abritait commençait à s'ébranler, les tuiles moussues volaient en éclats et le châssis de la charpente semblait vaciller et repousser les murs à chaque nouveau souffle de la tempête. Sans doute la peur s'empara de moi, car je me laissais gouverner par des idées superstitieuses et puériles. Je pensais que Dieu renversait mon ermitage pour m'en chasser, qu'il repoussait un vœu téméraire et me forçait de retourner parmi les hommes. Je m'élançai donc vers la porte, moins pour fuir le danger que pour obéir à une volonté suprême. Puis je m'arrêtai au moment de la franchir, frappé d'une idée bien plus conforme à l'excitation maladive et à la disposition romanesque de mon esprit. Je m'imaginais que Dieu, pour abréger mon exil et récompenser ma résolution courageuse, m'envoyait la mort, mais une mort digne des héros et des saints. N'avais-je pas juré de mourir dans cette abbaye? Avais-je le droit de la fuir parce que la mort s'en approchait? Et quelle plus noble fin que de m'ensevelir avec mes souffrances et mon espoir sous ces ruines chargées de me sauver de moi-même et de me rendre à Dieu purifié par la pénitence et la prière? « Je te salue, hôte sublime, m'écriai-je, puisque le ciel t'envoie, sois le bienvenu. Je t'attends derrière le seuil de cette cellule qui aura été mon tombeau dès cette vie. » Je me prosternai alors sur le carreau et, plongé dans l'extase, j'attendis mon sort. Le dernier débris de l'abbaye ne devait pas rester debout dans cette sombre matinée. Avant le lever du soleil, la toiture fut emportée. Un pan de mur s'écroula. Je perdis le sentiment de ma situation. Un prêtre, que l'orage avait fourvoyé dans ces plaines désertes, vint à passer en ce moment au pied des murailles croulantes du couvent. Il s'en éloigna d'abord avec effroi, puis il crut entendre une voix humaine parmi les voix furieuses de la tempête. Il se hasarda entre les nouvelles ruines qui couvraient les anciennes et me trouva évanoui sous des débris qui allaient m'ensevelir. La pitié, le zèle que donne la foi à ce même qui manque d'humanité, lui fit retrouver la force cruelle de me sauver. Il m'emporta sur son cheval, à travers les plaines, les bois et les vallées. Ce prêtre s'appelait Magnus. Par lui, je fus arraché à la mort et rendu à la douleur. Depuis que je suis rentré dans la société, mon existence est plus misérable qu'auparavant. Je n'ai voulu être l'esclave, la maîtresse, comme on dit, de personne. Mais, ne me sentant lié à aucun homme, par cette consécration expresse et volontaire de la possession, je laissais peu à peu mon imagination inquiète et avide parcourir l'univers et s'emparer de ceux qui s'offraient à elle. Trouver le bonheur devint ma seule pensée, et s'il faut avouer à quel point j'étais descendu au-dessous de moi-même, la seule règle de ma conduite, le seul but de ma volonté. Après avoir laissé, sans m'en apercevoir, flotter mes désirs vers les ombres qui passaient autour de moi, il m'arriva de courir en songe après elles, de les saisir à la volée, de leur demander impérieusement, sinon le bonheur, du moins l'émotion de quelques journées. Et comme ce libertinage invisible de ma pensée ne pouvait choquer l'austérité de mes mœurs, je m'y livrai sans remords. Je fus infidèle à l'imagination, non seulement à l'homme que j'aimais, mais chaque lendemain me vit infidèle à celui que j'avais aimé la veille. Bientôt, un seul amour de ce genre ne suffisant point à remplir mon âme toujours avide et jamais rassasiée, j'embrassai plusieurs fantômes à la fois. J'aimais dans le même jour et dans la même heure le musicien enthousiaste qui faisait vibrer toutes mes fibres nerveuses sous son archet et le philosophe rêveur qui m'associait à ses méditations. J'aimais à la fois le comédien qui faisait couler mes larmes et le poète qui avait dicté au comédien les mots qui arrivaient à mon cœur. J'aimais même le peintre et le sculpteur dont je voyais les œuvres et dont je n'avais pas vu les traits. Je m'enamourais d'un son de voix, d'une chevelure, d'un vêtement, et puis d'un portrait seulement, du portrait d'un homme mort depuis plusieurs siècles. Plus je m'abandonnais à ces fantasques admirations, plus elles devenaient fréquentes, passagères et vides. Nul signe extérieur ne les a jamais trahis, Dieu le sait bien. Mais, je l'avoue avec honte, avec terreur, j'ai usé mon âme à ces frivoles emplois de facultés supérieures. J'ai souvenir d'une grande dépense d'énergie morale, et je ne me rappelle plus les noms de ceux qui, sans le savoir, gaspillèrent en détail le trésor de mes affections. Puis, à se prodiguer ainsi, mon cœur s'éteignit. Je ne fus plus capable que d'enthousiasme. Et ce sentiment, s'effaçant au moindre jour projeté sur l'objet de mon illusion, je dus changer d'idole autant de fois qu'une idole nouvelle se présenta. Et c'est ainsi que j'existe désormais. J'appartiens toujours aux derniers caprices qui traversent mon cerveau malade. Mais ces caprices, d'abord si fréquents et si impétueux, sont devenus rares et tièdes, car l'enthousiasme aussi s'est refroidi. Et c'est après de longs jours d'assoupissement et de dégoût que je retrouve parfois de courtes heures de jeunesse et d'activité. L'ennui désole ma vie. Pulchérie, l'ennui me tue, tout s'épuise pour moi, tout s'en va. J'ai vu à peu près la vie dans toutes ses phases, la société sous toutes ses faces, la nature dans toutes ses splendeurs. Que verrai-je maintenant? Quand j'ai réussi à combler l'abîme d'une journée, je me demande avec effroi avec quoi je comblerai celui du lendemain. Il me semble parfois qu'il existe encore des êtres dignes d'estime et des choses capables d'intéresser, mais avant de les avoir examinés, j'y renonce par découragement et par fatigue. Je sens qu'il ne me reste pas assez de sensibilité pour apprécier les hommes, pas assez d'intelligence pour comprendre les choses. Je me replie sur moi-même avec un calme et sombre désespoir. Et nul ne sait ce que je souffre. Les brutes dont la société se compose se demandent ce qui me manque à moi, dont la richesse a pu atteindre à toutes les jouissances, dont la beauté et le luxe ont pu réaliser toutes les ambitions. Parmi tous ces hommes, il n'en est pas un dont l'intelligence soit assez étendue pour comprendre que c'est un grand malheur de n'avoir pu s'attacher à rien et de ne pouvoir plus rien désirer sur la terre.